Bonsoir à tous, bienvenue sur Unperfect Radio, la radio de l'espace d'art Urgent Paradise. On est très heureuse et heureux de vous présenter ce soir la pièce radiophonique intitulée Le soulèvement des cariatides, proposée par Magali Dougou. Donc en deux mots, mais vous trouvez ces infos sur le site de la radio. Le soulèvement des cariatides, c'est le premier épisode d'une série de pièces radiophoniques intitulées Woman's Waves, diffusées tous les deux mois sur plusieurs radios en Suisse. Et ce premier épisode, le soulèvement des cariatides, s'intéresse aux fontaines Wallace de Paris et à propos de devenir océanique, de renversement et de danse. J'en dis pas plus, et avant de souhaiter une bonne écoute, on précise que Magali Dougou propose aussi une vidéo qui n'a pas de son et peut, si vous le voulez, être jouée en même temps que la pièce sonore, vidéo qui se trouve donc sur la même page un peu plus bas. Voilà, cette fois, bonne écoute.
Women Waves. Le soulèvement des cariatides. Devenir océanique. Renversement et danse. De Magali Dougou. Avec les voix, interprétations, musique, performances, vidéos et textes de Myriam Jarmache, Julie Magnena, Nina Berclaz, Maddy Diamond, Yumna Saba, Fanny Bosch, Sirenessa, Clarisse Zarbos, Ibei, Paloma Ayala, Maria Buzinowska-Jones, Habi Beach, Renate Lorenz, Ursula K. Le Guin. Le soulèvement des cariatides s'intéresse aux fontaines Wallace de la ville de Paris et est à propos de devenir océanique, de renversement et de danse. Les femmes colonnes vont se soulever par la danse pour qu'avec elles nous puissions imaginer des futurs post-patriarcaux, des retours à la mer transtemporelle, des devenirs océaniques. Elles vont danser jusqu'à la transe pour immerger la ville. Après qu'avec elles, nous aurons toutes dansé jusqu'à l'épuisement, que surgira-t-il de la scène? La danse contient ce double potentiel, celui de l'explosion des particules atomiques qui constituent nos corps, libérant ainsi une énergie indestructible, et le potentiel de contamination mimétique par le simple fait de regarder quelqu'un danser. Une série de mouvements, comme autant de stratégies de résistance et de commémoration. Un espace-temps où les corps en dehors de la norme se réunissent pour se souvenir et se soulever collectivement. Les vagues, ondes et courants qui traversent cette pièce audio sont autant de voies de communication et des limites fluctuantes entre l'espace et le temps qui mêlent passé lointain et futur incertain. Les mers, lacs, fleuves et rivières deviennent alors des archives, une mémoire originale qui nous traverse et est transmise à chaque bodies of water. Ces cours d'eau sont des lieux de politique, de transformation, d'assemblage et de multiplication. Nos corps ont besoin de cette eau qui, elle, a besoin d'une membrane pour ne pas être balayée en mer. Dans une histoire parallèle de l'évolution décrite par Ursula K. Le Guin dans la théorie de la fiction panier, une bassine aurait été le premier outil culturel produit par l'homme au lieu d'une arme. Cette idée transforme les rapports de domination. Nos corps, comme les cours d'eau, collectent, conservent et protègent des mémoires, des histoires et des idées, et établissent une relation privilégiée avec tous les corps contenus. En ingérant de l'eau, nous les avalons, et nous devenons ensemble des flux de culture et de politique, traversant constamment cet espace transcorporel. Il s'agit alors d'inventer de nouveaux récits en s'inspirant d'hypothèses et d'histoires potentielles.
La ville aux jointures, gonflées du liquide des rois, les carcasses séductrices sont autant de produits annonceurs. De leur colère en devenir, elles emplirent d'agitations nouvelles les joints des pavés. Les solutions aqueuses semblèrent se mélanger un instant. Et c'est de là qu'elles se soulevèrent. Depuis ce désastre, celui des corps scellés, exhibés, normés, leur perte engendra une propagation rapide et virulente de leur colère. Avec elle, nous devins une multitude et nous scandions. Nos vérités sont brutales, elles vous regardent, vous scrutent, vous déshabillent. Cariatides fétides, aux bras levés, de leurs aisselles dégoulinent vos impunités. Soulevés de leurs fesses, leurs désirs immergés jaillissent des trompes d'eau. Peuple colonne, passivisée, elles avaient pour elles la grâce, dans leur penchant, la puissance de leurs indécences. Elles cessèrent d'accepter les pratiques de remplissage. Dans un mouvement contradictoire, de détournement, de déchaînement, de renversement, elles se mirent à remuer leurs hanches. Une danse peut-elle être submersible, subversive, capable de faire ressurgir les corps jetés par-dessus bord et les territoires révoltés et dénoyés? Dans une tentative de mise à l'envers pour excentrer le rapport au monde, décentraliser leurs blocs de chaîne, elles se mirent à remuer leurs obscénités. Fesses molles, charnues, graisseuses et plates, se riant des patriarches. S'ils savaient ce qu'elles allaient créer de leurs croupes, ils les auraient déjà toutes démantelées.
Soulevées de leurs fesses, leurs désirs immergés, jaillissent des trompes d'eau. Cariatides fétides, aux bras levés, de leurs aisselles dégoulinent vos impunités.
Au début de ces événements déroutants, une voix annonçait, dans les stations de métro, à les supermarchés, une étrange maladie. Une obscure folie des corps a envahi le peuple. Beaucoup de gens, par bizarrerie, se mettent à danser, tout le jour et la nuit, sans repos. Plusieurs en sont déjà morts. À l'appel des premières cariatides, chacune, baissant les bras, abandonna son toit pour faire trembler fesses et bassins. Les fontaines explosées coulèrent encore et encore. Battue par les flots, des jets retournés, la ville finit par sombrer. Danser jusqu'à la transe, faire chavirer les édifices, décorer des seins dévêtus, des figures lascives. Cariatides, l'eau aux fesses, renversée au ciel, Elles offrent leurs orifices cloîtrés de sirènes. Après avoir passé tant de vie à couler, des fontaines les écailles poussent. Poissons vautrés dans les thorax. Dessinent leurs désirs sur les fonds côtiers de liquide iodé. Amertume, tu ma mère. Où sont ces mères tant attendues? Les avez-vous vues passer? Foulant les pavés de leur sexe gorgé? Les mamies vata vater, déesses aux multiples noms, recouvrent leurs bras de breloques, signe de leur nature équivoque. Déesses noires, sirènes sans écailles. Pour séduire les foules, elles les font danser jusqu'à la transe. Mères des eaux, elles éclaboussent de leurs têtes de serpents vos rivages dévastés, de mensonges en jointure. Prédatrices ou protectrices, peu importe. Nous brûlerons les deux, ils s'esclavent. Et puis ils diront encore. Leur hybridité incarne le désespoir. En réalité, leurs aspirations au revirement est puissante. Et comme toute force, ça les rend dangereuses et prometteuses. Elles te transent, te percent jusqu'à l'épuisement. Les corps à la forme changeante te pulvérisent. Tache d'un rouge mortel, destructeur, chaleureux, mais aussi d'un blanc translucide et créateur, tes imaginaires. Les vatas distillent leur rage dans les cerveaux en danse, comme de la pisse, une colère tiède qui vient du plus profond des océans, des fleuves et des sources cachées et qui nettoient la boue déjetée. Les cariatides, érodés de larmes, se nourrissant de la haine de leurs assassins, démantelèrent le corps social, celui qui appartient à l'État patriarcal. Dans les rythmes extatiques, elles rejouèrent l'histoire, enregistrant leur mémoire dans l'autre, sans aucun ordre chronologique.
Soulevés de leurs fesses, le désir immergé jaillit des trompes d'eau.
Bientôt, d'autres êtres, travailleurs forcés du système d'extraction, humains et non humains, rejoignirent le soulèvement. Cariatides fétides, aux bras levés, de leurs aisselles découlinent vos impunités. Lorsqu'elles se rebellèrent, elles payèrent de leurs os, leurs mouvements effrontés. Un motif, celui du renversement, non plus vers la terre, mais sexe et point lié en direction de l'univers.
Cariatides, l'eau aux fesses, renversées au ciel, elles offrent leurs orifices cloîtrés de sirène, après avoir passé toute une vie à couler. Les fontaines, les écailles poussent.
Cette histoire est bien à propos de violence, de rage, de résistance et de perte. Leur deuil en tunique, en soulèvement, contre vos disparitions, vos devenirs fantômes, pour leur futur océanique.
Soulevés de leurs fesses, leurs désirs élargés, jaillissent des trompes d'eau, cariatides fétides, aux bras levés, de leurs aisselles dégoulinent vos impunités.
la chose la plus subversive à faire est une orgie ou une fête. Danser pue le danger. Alors nous mourrons tôt ou tard de polydingue.
Dans Hydrofeminism, or on Becoming a Body of Water, et We Are All at Sea, Practice, Ethics and Poetics of Hydrocommons, une conversation parue dans Mousse Magazine avec Sophia Lemos, la biologiste et chercheuse en études de genre Astrida Neymanis, revient sur son concept d'hydroféminisme en le décrivant ainsi. Nous faisons tout corps avec l'eau. Penser l'incarnation comme un état aqueux dément la compréhension des corps que nous avons hérités de la tradition métaphysique occidentale dominante. En tant qu'aquatique, nous faisons l'expérience de nous-mêmes, moins comme entité isolée et plus en tant que tourbillon océanique. L'espace entre nous-mêmes et nous autres est à la fois plus éloigné de la mer primitive et plus proche de notre propre peau. Les traces de ces mêmes commencements océaniques nous traversent encore, s'arrêtant à cette corporalité que nous appelons mienne. L'eau est entre les corps, fait corps, devant nous et au-delà de nous. Les perceptions vacillent. Les catégories confortables de la pensée commencent à s'éroder. Le corps fluide n'est pas spécifique à la femme. Mais l'incarnation aqueuse reste une question féministe. Penser en tant que corps aquatique a le potentiel de faire naître de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques féministes. Aucun corps n'est autosuffisant dans sa fluidité. Nous venons de différentes mères qui nous ont donné naissance, tant sur le plan de l'évolution que sur celui de la vie. Les corps aquatiques, en tant que figures féministes, sont donc une question de relations et de soins. Il s'agit de soutenir, de tenir et de donner naissance à d'autres types de corps. En ce sens, les corps aquatiques sont nécessairement aussi une question de différence. Cette impulsion gestationnelle incontrôlable est en outre maintenue dans une tension merveilleuse avec la perpétuité insistante de l'eau. Comprendre le toujours temps de l'eau. Même dans ces circulations de différence et de répétition. C'est aussi considérer ce dont l'eau se souvient. Mais nous ne gérons pas toutes les mêmes futurs. La féministe noire Christina Sharp attire notre attention sur l'archive qu'est le passage de l'Atlantique, un océan encore animé par l'esclavage qui persiste dans son sillage. Elle écrit: parce que les nutriments circulent dans l'océan et que le processus par lequel les organismes mangent les organismes est le cycle des nutriments dans l'océan. Les atomes des personnes asservies qui ont été jetées par-dessus bord se trouvent encore aujourd'hui dans l'océan.
Dans la pénombre sonore, un son sauvage, un acouphène aigu et persistant, devenu cri infini, comme s'il inversait le principe du silence. C'est un hurlement obscur, immergé, pas tout à fait humain, ni non humain. Un long râle aquatique, ruisselant des bouches de sel dont on a envahi l'univers mental. Rien à voir avec un dernier cri, ni un premier. Son crachat se dessine dans la salive de l'écume et la mousse des vagues. Il s'expand en une vibration sourde aux multiples répercussions dans le liquide. Cette vibration se gonfle d'humidité au contact d'autres temps et d'autres colères. Si ce cri se libérait hors de l'eau, il percerait les tympans et coulerait des oreilles. Ce cri prend écho dans le sang-temps. Lorsque nous avons baigné nos cheveux dans les glottes de leurs héros, distillé nos pisses dans leur cerveau, immergé nos hurlements aquatiques dans leur fluide corporel, ondulé dans les rivières de leurs rêves sous acide, édenté par leurs drogues, nos vagins ictioïdes gobaient tout sur leur passage. Lorsque les crocs repoussèrent de nos gencives vulvaires, les carotides furent sectionnées d'un coup de rein. Une fois celles-ci tranchées, le son ne se formait plus sur leurs lèvres. Nous pensions les avoir enfin silencées, mais on entendait encore leur cœur taper dans les coups. Même morts, ils demeuraient bruyants, de ce râle vague qu'ont les agonisants, quand ils savent qu'ils ne survivront pas longtemps. Pour nous reconnaître, nous avons bariolé nos joues des glottes perforées. Ce n'est pas le sang qui nous intéressait, mais bien le silence obtenu. Seules les particularités dans la grâce comptent. Seules les particules dans la graisse restent. Si un retour à l'abnormal est envisagé, que cet ordre soit coulé et que nous soyons toutes noyées.
J'imagine ainsi un temps non linéaire. En dehors de la verticalité hiérarchique habituellement admise comme système de valeurs universelles dans lequel nos corps aquatiques feraient des allers-retours à travers différents récits, mythologies, cosmogonies. Dans cette nouvelle réflexion spatio-temporelle, il s'agit de réfléchir au devenir comme quelque chose qui libère les narrations historiques. Un devenir océanique, comment devenir révolutionnaire féministe? Il y a deux manières de considérer un événement, comme le dit Deleuze. L'une qui consiste à passer le long de celui-ci et à en accueillir le pourrissement dans l'histoire. L'autre à remonter l'événement, à s'installer en lui, à rajeunir et à vieillir en lui tout à la fois. Renate Lorenz appelle « drague transtemporelle » ce qui favoriserait une rencontre entre des corps contemporains et des corps historiques, avec toutes leurs connexions, ce qui pourrait rendre justice à l'altérité des images historiques, tout en les laissant ouvertes à des devenirs futurs. Elle parle de cette méthode comme d'une archéologie queer, et imagine l'idée d'une chronopolitique queer. Être sous l'eau est une expression qui suggère que vous êtes désorienté ou confus. Vous avez perdu vos repères. Mais que se passerait-il si être sans attache était une autre façon de se libérer? Et si être sans attache signifiait s'avancer, s'exprimer, dire non, lâcher prise, se relever, prendre du recul? Et si être sans attache signifiait apprendre de nouvelles astuces de navigation auprès de ceux et celles qui ont longtemps nagé, plongé, flotté, se sont submergés, ont développé différents types de mondes? Être déterritorialisé, si cela signifie être en mer, nous invite à imaginer ce que cela signifierait de laisser la mer nous tenir. Les femmes ont développé une connexion particulière à l'eau, puisqu'elles sont encore aujourd'hui, dans certaines zones géographiques, responsables de l'approvisionnement en eau potable. Cette tâche contribue à limiter leur participation au processus de prise de décision et aux activités économiquement productives, les mettant à l'écart de postes plus valorisants et les exposant à des violences sur le parcours vers les réserves d'eau. À Paris, par exemple, le métier de porteur d'eau se pratiquait jusqu'au début du XXe siècle. Les femmes qui accompagnaient leur mari dans ce labeur pour lequel elles n'étaient pas rémunérées n'étaient pas reconnues dans cette profession. La ville compte maintenant plus de 1200 fontaines qui approvisionnent en eau potable la population. Paris a créé sa propre régie publique pour lutter contre la privatisation de l'eau. Le droit communautaire sur l'eau s'effrite depuis que les marchés financiers internationaux lui ont donné un prix, l'assimilant à de l'or bleu et entraînant l'asservissement de populations entières privées de cette ressource. Les stratégies mises en place par des multinationales ou des États, comme la pollution des cours d'eau, l'accaparement et le contrôle de l'eau potable, participent à une nouvelle forme de racisme environnemental. À Paris, les fontaines les plus connues sont les fontaines de Wallace, offertes à la ville par Richard Wallace pour mettre fin à la pénurie d'eau potable et empêcher les moins privilégiés de tomber dans l'alcoolisme. Les fontaines sont moulées avec quatre cariatides, noms donnés au statut de femme qui soutiennent certains édifices architecturaux pour en remplacer les colonnes. Les origines du terme sont associées à l'esclavage dans l'art de la Renaissance. Leur nom leur aurait été donné d'après Cariae, une ville près de Sparte, en Laconie, dont les femmes ont été punies après avoir trahi Athènes en prenant le parti de la Perse dans les guerres.
Freeman propose le terme de drag temporel pour décrire une chronopolitique du drag qui peut franchir la barrière du temps, être anachronique et, pourrait-on dire avec Albert Stamm, contrer un modèle reproductif du temps, démarche qui s'oppose à la valorisation d'une compréhension exclusive du drag comme subversion des normes de genre. Le drag temporel, selon Freeman, s'oppose à une caractérisation dénigrante de ces formes passées, caractérisation qui représente une politique d'essentialisation des corps, de normalisation de la sexualité féminine et de compréhension limitée de la politique. Le drag temporel est donc une des parties constitutives de la subjectivité queer. Le drag est donc davantage qu'une pratique sous-culturelle et s'en distingue nettement. C'est un sursis transtemporel et une alternative à la soumission à des concepts historiques et biographiques du temps. Le drag Salomé est défini de manière discontinue à travers des mensonges, des tromperies, des sauts temporels, des éléments artificiels d'incarnation, des actions contradictoires et des économies alternatives. La ruse qui permet à Salomé d'échanger une danse contre un meurtre. Alors qu'Elizabeth Freeman voudrait pouvoir dépasser le concept de drague qui transgresse le genre pour aller vers un concept plus neuf de drague qui transgresse le temps, l'exemple de Salomé et de ses usages montre clairement à quel point ces deux notions sont interdépendantes. Comme le souligne Elizabeth Freeman, les chronopolitiques déviantes sont des politiques qui prennent corps et qui revêtent également des fonctions importantes pour les rapports qu'on entretient au désir et au plaisir. Le drag Salomé, par conséquent, est d'une part incarné et sexuel, et il favorise d'autre part une conception dépersonnalisante et dénaturalisante de la sexualité et du genre comme quelque chose qui, ainsi que le formule Elspeth Probyn, en renvoyant à Elizabeth Gross, n'a rien à voir avec ce qu'est un corps, mais avec ce qu'un corps peut faire. L'étrangeté, une différence freaky, est ainsi produite à travers une chronopolitique freaky qui devient possible en juxtaposant des concepts de temps divergents, voire fictionnels, utopiques et contradictoires. J'aimerais appeler archéologie queer la méthode que j'ai utilisée pour suivre les différentes traversées transtemporelles de l'image de Salomé à partir d'un point de vue actuel au moyen de travaux artistiques. Les excavations, auxquelles renvoie le terme d'archéologie, visent à découvrir un potentiel dans des éléments destructifs qui n'ont encore été rattachés à aucun écrit de l'histoire. La formule « archéologie queer » fait référence à un texte de Mathias Assay, où elle n'est que brièvement esquissée. Afin d'approfondir cette méthode, j'aimerais partir d'une remarque de Gilles Deleuze, où celui-ci déclare que l'importance de distinguer devenir d'un côté et histoire de l'autre lui apparaît de plus en plus claire. Le devenir n'est pas une partie de la situation historique, pas une partie de l'objet de l'histoire, mais plutôt ce que libère la situation historique, ce qui produit quelque chose de nouveau, ce qui est devenu, pour ainsi dire, révolutionnaire. Ce que l'histoire saisit de l'événement, c'est son effectuation dans des états de choses. Mais l'événement dans son devenir échappe à l'histoire. L'histoire n'est pas l'expérimentation, elle est seulement l'ensemble des conditions presque négatives qui rendent possible l'expérimentation de quelque chose qui échappe à l'histoire. Sans l'histoire, l'expérimentation resterait indéterminée, inconditionnée. Mais l'expérimentation n'est pas historique. Deleuze critique la façon dépréciative dont le terme de révolution, par exemple celle de 1968, est aujourd'hui débattu. Mais on ne cesse de mélanger deux choses, l'avenir des révolutions et le devenir révolutionnaire des gens. Ce ne sont pas les mêmes choses dans les deux cas. En ce sens, une archéologie queer pourrait consister à distinguer les stratégies dénormalisantes ou destructives du devenir utilisées dans le passé et à réinscrire ces stratégies historiques dans le champ de la politique et du plaisir sexuel.
Les quatre figures de cariatide des Fontaine Wallace représentent les saisons et sont associées à des qualités soi-disant féminines, mais passives et tournées vers le soin de l'autre. Ce choix sculptural n'est pas un hasard, puisque l'association femme-eau est un symbole récurrent autour de la figure maternelle, tendre et protectrice. Mais cette vision essentialiste tend à penser le corps féminin uniquement sous un angle biologique et reproductif.
Welcome to your higher consciousness. You have now ascended to your divine pad. Feels good, right? Back to originality. Now, I see that it's different up here. Inhale. Exhale. As never-ending electromagnetic energy direct from the source, you now must decide what your role in the community is. You can join us, or you can allow the parasites inside of you to decompose your vessel. What's the matter? It's fear exchange. Babylon will devour all it can before it self-destruct.
Partout sous l'eau existent des villes, les villes anciennes. Partout, au fond de la mer, il y a des routes et des maisons, des rues et des maisons. Sous la vase, dans l'obscurité de la mer, des livres existent, des eaux existent. Toutes ces âmes existent sous la mer, dans la vase, dans les villes anciennes, dans l'obscurité. Il y a trop d'âmes là-bas. Prends garde si tu te promènes au bord de la mer, si tu navigues sur la mer antérieure, au-dessous des villes anciennes. Tu peux voir les âmes des morts anciens en fait froid dans l'eau. Elles prendront n'importe quel corps, les lumnifères, la méduse, les pousses de sable, ces âmes anciennes. N'importe quel corps, elles peuvent les prendre. Elles entrent à la nage par leurs fenêtres, elles dérivent sur les routes, dans la vase, dans l'obscurité de la mer. Elles s'élèvent dans l'eau, vers le soleil, affamées de naissance. Prends garde à l'écume de la mer, jeune femme. Prends garde aux pousses de sable. Tu risquerais de trouver une âme ancienne dans ton ventre. Une âme ancienne, un être nouveau. Il n'y a pas assez de gens pour les âmes anciennes, bondissant comme des pousses de sable. Leur vie est-elle les vagues de la mer? Leurs âmes sont l'écume. Traces d'écume sur les sables prends, présentes et absentes.
Dans le soulèvement des cariatides, voilà donc qu'un matin d'avril 2021, elle se rebelle. Un soulèvement pour renverser la pesanteur qui les cloue sous les toits et sur les socles des fontaines. Elle se soulève depuis un désastre pour réinventer leur désir propre. La puissance de celui-ci s'oppose à la violence de l'État patriarcal. Si celui-ci avait compris dès le départ ce qui était en train de se produire, il aurait fait démanteler toutes les fontaines. Mais comment se soulever lorsque les corps ont été anéantis, déshumanisés et anormalisés ? Elle voulait qu'on les regarde, qu'on regarde leur brutale vérité, être colère, entre désir et perte. Un soulèvement en forme de deuil, de lâcher prise, une résistance contre leur propre absence que d'autres étudient à l'université. Il leur fallait générer un mouvement collectif. Aussi, c'est par la danse qu'elles se rebellèrent. Elles enfreignirent les règles, engendrant une propagation. Elles dansèrent pour que le « ça ne nous regarde pas » ne soit plus jamais dit. Pour qu'avec elles, nos corps révoltés et nos mélodies dissonantes et humides soient entendus. Donc, voilà qu'un matin d'avril 2021, les cariatides des Fontaines Wallace se soulevèrent. Comme un acte de retournement, de détournement, de déchaînement, elles se mirent à danser, entrant en transe, et lâchèrent les toits des fontaines. Elles se réapproprièrent les danses, faites de fêlures, de mouvements extatiques et hallucinés, de cercles infinis, de tremblements, et traversant les générations. L'eau jaillit, alors, de toutes parts de la ville pendant plusieurs jours, tandis qu'elles continuaient à danser. Bientôt, nous fûmes une multitude à nous mouvoir sous les jets des fontaines. Contrairement à ce qui était inscrit jusque-là sur les devises et pavillons, battus par les flots, la ville de Paris finit par sombrer. Dans ce nouvel espace submergé contenant à la fois nos passés aquatiques, nos présents incertains et nos devenirs océaniques, les cariatides imaginèrent des mouvements subversifs, submersibles et érotiques, capable de faire ressortir les corps noyés, tués, jetés par-dessus bord. Elles imaginèrent les nouveaux territoires, prêts à émerger et enfouis à nouveau, comme dans un mouvement cyclique où le futur est déjà une archive. Sortis des eaux, nous retournerons à la mer lorsque les terres seront submergées.
Check into another world. Hear the soothing sound of the waves. Swim with dolphins, dive with sea creatures. Submerge the now. Dream unlimited.
Avec elle, nous avons toutes dansé jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que nos rébellions collectives plongent la ville sous les eaux, jusqu'à ce que leurs rêves étriqués de mensonges liberticides ne justifient plus leur violence. Sans aucune autorisation de sortie, pendant des jours et des nuits, nos danses ont fait couler leur monde mortifère. Les cariatides, en lâchant les toits, subvertir les rapports de genre et de pouvoir. Les corps, désormais ex-normés, devinrent ceux sur qui la violence est admise. Après les avoir frappés encore et encore pour taire le soulèvement, ils reculèrent devant toute cette eau coulant des corps ouverts. Ils prirent peur que leur corps à eux soit assez perméable pour qu'elle s'y infiltre.
Ils craignèrent cette inondation, mais le mouvement d'immersion était déjà bien trop avancé. On martèle en rythme, on martèle la poitrine d'Annie Rescue, la poitrine d'Annie, le visage arraché dans leur salon, elle se noie. Entraînant avec elle les tramages irrésolus. Se réunir et s'éclater, se remplir et se vider, se propager, selon des pratiques à la fois dangereuses et prometteuses, pourrait être l'expérience à l'œuvre dans nos devenirs aquatiques. Puisque personne n'est pensé seulement pour soi-même, mais toujours par rapport aux autres, se pose la question de la violence du soulèvement, du dégoût et de l'indignation qu'elle peut produire. Que faire avec la violence d'insurrection ? L'assumer et la réinventer ? S'interrogent Zoé et Karl. D'en sortir de l'effroi, prendre des forces. Vacarme 72. Elle écrit : longtemps, ceux et celles qui étaient qualifiés de violents n'étaient pas ceux et celles qui disposaient du monopole de la violence. Appartenant à l'appareil policier et militaire de l'État, à son appareil législatif, exécutif ou judiciaire. Tous organisés pour contenir la violence, la réprimer et protéger les individus de sa brûlure. La seule violence reconnue comme telle était celle de criminels. Il faut pourtant chaque jour se souvenir que les bourreaux se déguisent en 12 victimes éperdues, salissent ceux et celles qui osent leur résister, ou ceux et celles tout simplement dont l'existence dérange. Bientôt, ils nous diront que la démocratie est une violence que l'on fait à leur dictature innocente. Que dit-on de cette autre violence partout à l'œuvre, pourtant invisible, ou plutôt qu'on ne veut pas voir parce qu'elle est organisée et silencieuse ? Violence économique, c'est-à-dire violence froide, impersonnelle, neutre, non voulue, mais assumée par ceux à qui elle profite et intériorisée par ceux à qui elle ne profite pas. Mais cette violence n'en est pas moins radicale, orchestrée, stratégique. Elle n'a plus le caractère instable, spontané et donc risqué de la violence. Pour nommer cette contradiction apparente, Naomi Klein parle de stratégie du choc. C'est une sorte de violence essentielle, c'est-à-dire une violence qui a quitté la sphère de l'accident, de l'événement imprévu, pour devenir la redondance de nos vies les plus quotidiennes. La violence n'est plus que nommée au singulier et sans qualificatif. Elle est devenue un objet homogène qui ne peut que produire dégoût, indignation et opprobre social à l'égard de ceux et celles qui oseraient en faire usage, produisant autour d'eux des victimes de la violence.
Nous sommes Jaffra Malari, Johanna, Anna Matschke, Franziska Chanskowska, Rosa Luxembourg, Anna Anderson, Maïga Adrian, Anastasia Nikolaevna Omanova, Lucie Berlin, Lena Sand, Anastasia Manahan, Rosalia Lübeck, Esma Yalampik et d'autres dont les noms n'ont jamais été sus. Nous étions celles du Cap von Teich, de la Spree, du Lendwerk Canal, du Telto Canal, du Spendauer Schifffahrtskanal, de la Havel, de la Panke, de la Sachsendorfer Badensee. Ce sont les étangs, canaux, rivières et lacs dans lesquels nos corps se sont mêlés aux autres corps, ports et sports. Nous avons remonté les courants, des lignes fortifiées aux canaux de drainage et de détournement, des écluses supérieures aux bassins des centrales de refroidissement, sillonnant les zones où les bateaux versaient de l'oxygène dans l'eau la nuit. Pas de génération, pas de futur, pas de passé. Nous étions toutes à nouveau en mer. Un plan liquide sans fin, de corps altérés et défectueux, symbiotiquement hyperliés, dans ce qui était aussi appelé l'hypersie. Nous n'avions plus une seule forme. Nous étions désormais multiples, sombres, louches, compliquées, menaçantes, érotiques et équivoques. Nous avions pris sens dans ce qu'il y avait de plus dense et humide, de plus terrifiant et de plus irrationnel. Nous sommes les femmes vagues, nous sommes les femmes vagues, en trace de leur rivage, en trace de les écumer, les acculer. Nous sommes les femmes ondes, nous sommes les femmes ondulant dans les rivières, submergées par les rêves sous-assis, par les rêves sous de leur psychose et de leur psychose écumée.
Dans la danse, il semblerait que les corps deviennent dangereux, spécialement le corps des femmes. Nos corps sont un corps social, propriété de l'État, dont les enjeux de pudeur ou d'érotisation sont régis par lui. Mais sachez-le, nos danses et nos tenues ne seront plus jamais républicaines.
La figure de Salomé et l'image de sa danse exercèrent un attrait particulier à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Elles eurent un rayonnement très important. Elles furent reprises par une longue liste de célèbres acteurs, actrices du monde culturel comme Oscar Wilde, Alan Asimova, Loie Fuller et Ida Walker. En Angleterre, les femmes se réunissaient aussi entre elles pour danser la danse de Salomé, phénomène qu'on baptisa Salomania, comme s'il s'était agi d'une sorte de maladie infectieuse. Peu après la première représentation de l'opéra Salomé de Richard Strauss en 1905, le New York Times publia même un article conseillant vivement au président Theodore Roosevelt d'empêcher que cet engouement ne se propage dans tout le pays. Les divers textes et performances étaient et sont basés sur l'histoire biblique de Salomé et le plus souvent sur la version rédigée par Oscar Wilde. Le roi Hérode désire sa jeune belle-fille Salomé. Elle, de son côté, veut embrasser le prédicateur Jean le Baptiste qui la repousse. Elle choisit alors d'employer la ruse en faisant semblant de se soumettre aux vœux d'Hérode et en interprétant pour lui une danse affriolante, uniquement pour exiger ensuite, de façon très abrupte, la tête de Jean. À la fin, elle obtient ce qu'elle veut et embrasse la tête tranchée de Jean. En revenant à la figure de Salomé, j'ai dans l'idée que même au milieu des violentes circonstances sociales de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, comme l'histoire coloniale, l'homophobie et le taylorisme, Salomé offrait l'occasion de vivre et de fantasmer sur la sexualité et le genre en dehors du binarisme de genre et de l'hétéronormativité, et sans avoir recours à de nouvelles formations identitaires préétablies. Bien sûr, à la fois la signification, l'usage et les bénéfices sociaux que cette figure apportait restèrent en mouvement durant une longue période, s'étalant sur plusieurs décennies. J'aimerais proposer un point de vue qui permettrait de mettre en lumière l'utilisation dénormalisante des représentations de Salomé, lesquelles invoquaient simultanément le présent et le passé, et produisaient des projections et des souhaits touchant à une vie future. J'aimerais définir cette utilisation comme drague, ou plus précisément comme drague transtemporelle, comme une intervention qui prend corps dans le temps et dans la temporalité.
Plusieurs manifestations importantes d'épidémies dansantes ont été répertoriées au cours des siècles. L'épidémie de Strasbourg débuta en juillet 1518, lorsqu'une femme, Frau Truffe, se mit à danser avec ferveur dans la rue pendant 4 à 6 jours. En une semaine, 34 autres personnes s'étaient mises à danser et en un mois, elles furent aux alentours de 400. On ignore encore aujourd'hui pourquoi ces personnes se sont mises à danser. Au total, une vingtaine d'épisodes comparables ont été rapportés entre 1200 et 2021. L'un des derniers épisodes serait survenu à Madagascar en 1863, soit plus de 150 ans avant celui qui donna lieu à l'inondation destructrice de la ville de Paris. Dans ce très récent épisode, comme l'état des danseurs s'aggravait, des bourgeois inquiets demandèrent l'avis de médecins locaux et internationaux. ces derniers rejetèrent les causes astrologiques et surnaturelles, annonçant qu'il s'agissait d'une maladie naturelle, causée soit par une irresponsabilité collective, soit par un nouvel épisode d'hystérie. Néanmoins, les autorités de Paris encouragèrent les danseurs en construisant une énorme scène en bois. Ils pensaient en effet que les malades ne s'arrêteraient de danser que s'ils pouvaient le faire sans interruption jour et nuit jusqu'à l'épuisement. Pour améliorer l'efficacité du traitement, les autorités embauchèrent des musiciens et DJ pour maintenir la danse des malades. Bon nombre d'entre eux en moururent. Celles et ceux qui survécurent furent entraînés par les cariatides dans la Seine avant que l'eau ne recouvre jusqu'aux plus hautes architectures de la ville. Le twerk est une danse où la personne secoue les hanches et les fesses dans un mouvement de va-et-vient. Les origines de la danse remontent au bounce, une danse de la Nouvelle-Orléans, issue des diasporas africaines, dont les populations ont été le plus souvent redistribuées et assignées aux périphéries urbaines et aux ghettos des grandes villes. Le twerk est une danse sensuelle, mélange entre twist et jerk, du nom des danses auxquelles il emprunte certains mouvements et déhanchés. Pourquoi ne bougeons-nous pas toutes nos fesses ? Se demande Lucille Tott dans un essai intitulé Praising Twerk, Why Aren't We All Shaking Our Butt ? Pour l'Université d'Ohio. Selon Tott, alors que le twerk n'est pas considéré comme un sujet sérieux, mais comme une danse vulgaire, elle pourrait pourtant être féministe et body positive, un challenge au trash et à la blanchité, et appartenir à la communauté queer. Sur ce dernier point, elle nous explique. Si les origines du twerk sont diverses et peuvent sembler floues, l'importance de la race, de la classe et du genre dans sa pratique actuelle ne l'est pas. Le twerk fétichise et exalte certaines parties et formes du corps tout en entretenant une relation historiquement difficile avec les corps non adaptés. En ce sens, cette danse appartient à la communauté queer, qui est une critique des manières normalisantes de connaître et d'être. Dans ce sens, le twerk diffère d'avec la culture dominante et offre une image de résistance. Il met en lumière les stéréotypes sur les fesses des femmes noires et leur facilité naturelle supposée à danser. Cette danse, soi-disant trop sexuelle, est à propos de la résistance profonde à prendre au sérieux les danses et les corps afro-diasporiques et à les ancrer dans le discours sociopolitique. Le twerk challenge alors la culture blanche dominante. L'étude du vocabulaire des mouvements de base du twerk nous montre que le jeu y est un élément central. En s'amusant avec des zones honteuses comme le bassin, les fesses et le sexe. Pour l'artiste argentine et brésilienne noire Fanny Sosa, le twerk est ce terrain de jeu où elle peut dire oui. Et comme dans le féminisme, il s'agit plutôt de s'intéresser à comment dire oui. La femme contrôle son propre corps et sa propre énergie sexuelle, comme dans le jump off et le upside down, où la danseuse saute violemment sur l'homme, en grand écart, sur le bas du corps, alors qu'il est allongé sur le sol. Elle commence à twerker jusqu'à sa tête, sur laquelle elle s'assoit, en l'étouffant presque. L'homme reste à la merci de la danseuse. Il n'a pas le droit de bouger, ni de la toucher. L'homme est plus menacé qu'excité. Pendant ce temps, la danseuse envahit son corps, inversant la hiérarchie des genres. Dans la série documentaire Move, on voit Kimiko Versatile imaginer un nouveau mouvement de twerk, le chien pissant. Un mouvement guerrier qui consiste à imiter un chien qui pisse avec une jambe en l'air et une bouteille d'eau. On l'entend dire à ses danseuses, On reprend au pipi. Jenny, la bouteille. Jenny, penche-toi. Souviens-toi, là, tu lèves ta jambe, comme un chien, pour pisser sur quelqu'un. C'est un grand affront. Et ça, la bouteille, c'est pour faire la pisse. Je lève la jambe et je leur pisse dessus. Lucille Toth dit encore « Actuellement, une nouvelle génération de danseurs est influencée par une culture mondiale et est formée dans le monde entier. Ils se sont produits dans de nombreux pays différents et ont créé un style de métissage qui pourrait dépasser les divisions traditionnelles de genre et de style. Le métissage de ce polyswag peut être considéré comme queer, car il ne s'identifie pas au récit de normalité que la société crée. La culture queer consiste à prendre ce qui est refusé ou banni par les normes patriarcales et à le restituer sous une nouvelle forme. Mais la culture queer consiste aussi à résister aux certitudes, à contester ce qui a été enseigné comme majeur, normal et décent. Dans ce contexte, le twerk est queer dans la culture dominante, car il incarne ce mélange de danse, de musique, de formes corporelles et de sexualité. Le twerk va au-delà des questions de race, de classe et de genre pour devenir une danse générationnelle et unificatrice. Alors, pourquoi ne secouons-nous pas toutes nos fesses pour résister et nous soulever ?
Il est plus radical, Franz Fanon s'est installé en Algérie carrément. Il a écrit Les Damnés de la Terre, et dans Les Damnés de la Terre, il y a des passages magnifiques sur la transe des colonisés, la transe des corps colonisés, qui est le moment, le seul moment où les colonisés, justement, peuvent se libérer du joug colonial. Donc, cette résistance à l'oppression par la danse, par la création artistique, elle est, j'allais dire vieille comme le monde, mais je vais dire vieille comme la colonisation, puisque c'est le thème. Et elle a été étudiée, elle a été montrée, et elle porte même un nom, ça s'appelle la résilience. Donc je sais que c'est hyper à la mode, la résilience, donc de toute façon, comme c'est un TED Talk, voilà, je traverse les termes à la mode. Mais la résilience, elle est réelle, et c'est le fait, du coup, de transformer de la souffrance, de transformer de l'oppression en création artistique, de la sublimer à travers la création artistique. Le dance floor, au lieu de résistance, bien sûr, et mon cas de jurisprudence, presque, c'est le cas de la ballroom cinéma.
Une idée héritée du féminisme blanc et poussiéreux impose à nos corps d'être dégradés par le fait de se revendiquer comme un être sexuel, et de choisir librement et dans la joie les formes de son plaisir. J'aspire au soulèvement avec jouissance et grâce. Ma colère est bien trop précieuse pour vos fantasmes étriqués. À plusieurs, nous édifions de nouveaux imaginaires. Nous érigeons de nouveaux territoires insulaires. Habiter de nouvelles formes, de corps, aux identités mouvantes qui jouent à se travestir de vos mensonges dégoulinants.
Is eyes, heart, hand, pose. Sencillo, ¿no? Después de eso, canto. Muérdeme, mamacita. Pones tu mano izquierda al lado de tu oído separado. Tu mano derecha la vas a morder. Sin fuerza, pero la vas a morder. Y movimiento circular en tu cintura y cadera. Y la mano que tienes aquí va a bajar porque ahora canto trágame completita. Entonces vas a llevar tu mano de estar aquí en la boca hacia abajo. Trágame completita. Bone prepping, bone prepping. Y ahí haces lo que quieras. Eyes, heart, hand, pose, pose, pose. Trágame completita. Boom prepping, boom prepping. ¿Sí? Te lo voy a mostrar con música. Desde el rap tienes que estar al pendiente. Ahí va. Entro.
Mira cómo te prendes con este ritmo. Vamos para abajo con todo el estilo. Eyes, heart, hand. Pose. Muérdeme, mamacita. Trágame completita.
That's it.
Vous avez écouté les textes suivants de Magali Dougou. Introduction, lue par Myriam Jarmache. Cariatide fétide, avec la libre interprétation et musique de Julie Magnéna. Dans la pénombre sonore des femmes vagues, lue par Nina Berclaz. Composition musicale de Yumna Saba, Julie Magnéna, Fanny Bosch. Musique de Sirenessa, eBay. Lecture de Art Queer, une théorie freak, de Renate Lorenz, lue par Magali Dougou. La vallée de l'éternel retour de Ursula K. Le Guin, lu par Clarisse Zarvos. Extrait vidéo de Conscion Cannibal, de Paloma Ayala. Et Dream Holidays Unlimited One, de Maria Bozinowska-Jones. Toutes deux issues du projet d'Est Prologue, hébergé par District Berlin. Extrait de la conférence dansée Decolonize the Dance Floor à la Villette Paris de Happy Beach.